Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écho de Studio Tamani, il est 8h à Bamako, la même heure à Menaka. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de cette matinale. L'Office malien de l'habitat menace d'expulser bientôt les mauvais payeurs des logements sociaux. L'association des bénéficiaires des logements sociaux demande la clémence de l'OMH. Les coupures intempestives d'électricité sont une aubaine pour les réparateurs de groupes électrogènes. Ceux-ci se frottent bien les mains malgré quelques difficultés liées au travail. Marly-France est l'une des affiches des demi-finales de la Coupe du Monde Indonésie 2023, tout à l'heure à 12h temps universel. Pour des chroniqueurs sportifs, les deux équipes partent à chance égale. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo, Mamadi Keïta sur la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'Office malien de l'habitat OMH va procéder très bientôt à l'expulsion systématique de tous les mauvais payeurs parmi les bénéficiaires des logements sociaux. Ces derniers se verront retirer les logements pour non-respect du contrat de paye qui les lie à l'Office. C'est ce qu'indiquent les responsables de la structure. Le regroupement des bénéficiaires des logements sociaux reconnaît l'existence de ces mauvais payeurs mais demande la clémence de l'OMH. Le reportage de Khalifa Goïta.
Cette décision de l'Office malien de l'habitat fait suite à plusieurs démarches sans suite favorable auprès des bénéficiaires des logements sociaux. Pour son directeur général, Issa Seydou Sissoko, ces impayés chroniques constatés depuis longtemps obligent l'OMH à appliquer les textes.
On a fait des lettres et ensuite on est passé par des huissiers pour informer ces bénéficiaires. Et c'est pour quand même réparer une injustice car il y a beaucoup de malins qui attendent. Vous savez, en 2018, il y avait près de 30 000 demandeurs de logements sociaux. Il n'y a pas de délai. Dès que nous serions prêts, nous allons exécuter. Ceux qui seront expulsés des logements, il ne faut pas qu'ils croient que ça c'est de l'argent que nous allons abandonner. C'est de l'argent que nous allons récupérer par des voies appropriées.
Burama Gimala Sibi est le président de la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux. Il dénonce le comportement de certains bénéficiaires. Mais malgré tout, il exhorte l'OMH à revoir sa position.
Je pense que tous les bénéficiaires connaissent ces textes. Beaucoup aussi ne sont pas de bonne foi, ça on le dit. Certains parmi eux pensent que les logements là, ils ne devraient rien payer à l'État. Mais nous allons demander à l'Office malien de l'habitat d'être clément, d'accompagner ces bénéficiaires.
Les revenus générés par les paiements mensuels des logements sociaux permettent de financer de nouveaux projets de logements pour répondre à la forte demande. Le directeur de l'OMH a indiqué que cette opération d'expulsion va concerner un grand nombre des bénéficiaires de logements sociaux.
Faites un tour sur la page Facebook de Studio Tamani ou sur son compte X, ancien Twitter, pour réagir à toutes ces informations. L'Alliance des États du Sahel, AES, est dans la dynamique de mettre en place une union économique et monétaire pour les États membres de l'organisation. La création d'une banque d'investissement et la réalisation d'autres programmes d'intérêt commun sont les prémices de la mise en place de cette union. Pour l'économiste Modibo Mao Makalu, l'apport de la création de cette banque pourrait être capital pour l'économie sous-régionale. Toutefois, il précise que cela ne saurait être un abandon immédiat du franc CFA. Modibo Mao Makalu est joint par Sita Sidibé.
Pour sortir du franc CFA, d'abord, il faut dénoncer les accords de coopération de l'UEMOA, c'est-à-dire la coopération monétaire qui unissent les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine avec la France. Et après cette sortie, qu'on peut créer cette monnaie sous-régionale pour les 3 pays. Je pense que plutôt que dans l'immédiat, ce qui peut être fait, c'est quand même la création d'une banque d'investissement. Ça peut avoir un apport majeur parce que vous savez, quand les investissements, ça porte sur le moyen et long terme et c'est quand même une des faiblesses de notre coopération sous-régionale monétaire pour le moment. Cette banque d'investissement est une très bonne idée pour ces 3 pays qui ont des défis communs. Je pense que ça peut renforcer les investissements dans les 3 pays et permettre un développement plus harmonieux de leurs économies sous-régionales.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce adage colle bien à la situation des réparateurs de groupes électrogènes. Par ces temps de coupures intempestives d'électricité où les populations se plaignent, certains réparateurs de groupes électrogènes se frottent bien les mains malgré quelques difficultés inhérentes au métier. C'est un reportage signé Issa Oumar Tougoula.
Ce matin, Abdul Salam Sanogo est sur le troisième groupe qu'il répare avec un air joyeux. En ce temps des coupures intempestives, le quinquagénaire croule sous le travail, chose qui lui semble être bien profitable.
Depuis le délaissage jusqu'à maintenant, le minimum, c'est 3 à 4 groupes par jour. Des demi-cavias, la réparation peut aller de 10 à 15 000. Les 20 et 30 cavias, ça peut aller de 300 à 400 et ensuite ça monte. 3 000, 5 000 comme ça, si tu en amasses pendant toute une journée, ça fait un pactole.
Dans un autre garage de réparation des groupes électrogènes à Niarela, Ousmane Koulibaly relativise la rentabilité.
Beaucoup ont abandonné le groupe électrogène à cause de la cherté du carburant. Cela joue énormément sur notre marché. Les gens croient qu'avec les coupures, nous nous faisons beaucoup d'argent. Mais tel n'est pas le cas. La recette journalière ne dépasse pas 5 000 francs souvent, mais cela vaut mieux qu'avant.
Malgré l'avantage qu'offrent ces coupures à certains réparateurs, les acteurs nous informent que le métier n'est pas exempt d'embûches. Manque de fonds, de financement ou encore de respect, les difficultés sont nombreuses selon eux. Cependant, ils se disent optimistes quant à l'avenir de ce métier.
Reportage signé Issa Oumar Togola. Parlons à présent de changement climatique. La 28e conférence des parties sur les changements climatiques COP28 s'ouvre ce jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour la société civile malienne, les principaux enjeux de cette rencontre sont la mobilisation des financements et la limitation du réchauffement climatique en deçà de 1,5 degrés Celsius. Elle estime que ces financements pourront aider à faire face aux inondations, à la canicule et à la sécheresse qui ont des conséquences sur la population et l'économie du pays. Nuhum Maïga, chargé de l'environnement, de l'assainissement et du changement climatique au bureau exécutif du Conseil national de la société civile du Mali. Il est au micro de Ali Mayatara.
Le Mali fait partie des pays qui sont frappés de plein fouet par les effets néfastes du changement climatique. Donc, l'enjeu de cette COP reste d'une importance capitale pour le Mali, notamment pouvoir mobiliser autant de ressources, financer les projets de réparation de ces dégâts-là. Aujourd'hui, le secteur agricole est presque mourant avec la sécheresse, la rareté de la pluie, la dégradation du sol agricole. Donc, il est important aujourd'hui pour le Mali d'aller à cette COP avec comme ambition de revenir avec un financement conséquent pour pouvoir soutenir tous les secteurs qui sont frappés par les effets néfastes du changement climatique.
Allons à Sikasso à présent. Dans la cité de Kénédougou, une association des démarcheurs de mariage a été officiellement mise en place samedi dernier 25 novembre dans la ville. Cette association, selon les initiateurs, a pour objectif de mieux organiser les mariages, de faciliter les démarches en vue de réduire le taux de divorce dans la ville. L'initiative a été appréciée par les autorités locales. La chronique Zoom sur parle aujourd'hui de la solidarité des fumeurs. Il est fréquent de voir dans les lieux publics des groupes de personnes qui se réunissent pour fumer une cigarette. Ils sont tellement solidaires qu'ils s'organisent pour partager ce moment ensemble. Coup de projecteur sur ces fumeurs dans la chronique signée Arkia Touré.
La rencontre Mali-France, ce sera un match très très difficile. Je dirais que ce sera du 50-50. Parce que pratiquement dans les derniers carrés d'une compétition, il n'y a plus de favoris, il n'y a plus d'outsiders. Toutes les équipes se valent à ce niveau. Maintenant, c'est le football de jeunes. Tout dépendra du discours des deux entraîneurs, du système de jeu qui sera mis en place. Mais le Mali a un atout lors de cette rencontre. Il s'agit de Mamadou Doumbia qui a été sanctionné d'un carton rouge lors de la deuxième journée. Mais attention aux pas qu'on se dise que pratiquement le Mali a le plus beau football depuis le début de la compétition. Il n'y a pas une réalité. C'est toujours compliqué. Je pense que cette rencontre se jouera sur des détails, surtout au niveau de la concentration des jeunes.
Toutes nos excuses pour ce mauvais agencement des éléments. Le Mali affronte ce mardi la France en demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Rencontre prévue à 12h. Vous venez d'écouter le chroniqueur sportif Abdoul Dembélé qui estime que les deux sélections partent avec les mêmes chances. À présent, parlons de la chronique Zoom sur d'Arkia Touré qui parle aujourd'hui de la solidarité des fumeurs. Il est fréquent fréquent de voir dans les lieux publics des groupes de personnes qui se réunissent pour fumer une cigarette. Ils sont tellement solidaires qu'ils s'organisent pour partager ce moment ensemble. Coup de projecteur sur ces fumeurs.
C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Cette citation est bien mise en valeur par les fumeurs pour dire qu'il arrive que l'un des fumeurs soit à court d'espèces pour s'acheter un paquet de cigarettes. Mais pas d'inquiétude, il y a toujours un qui est prêt à dépanner tout le monde. Dans les écoles ou dans les grains, il est fréquent d'entendre « Karabla sirla » ou encore « Fal blakatemé ». Autrement dit, laisse circuler la cigarette. Il y a aussi ce fumeur qui ne partage jamais sa mèche, mais a toujours en sa possession une cigarette pour servir un autre fumeur qui souhaite l'accompagner. Probablement, la cigarette crée des liens d'amitié et de fraternité entre les fumeurs. Ces derniers, autour d'une mèche, peuvent discuter d'importants sujets d'actualité, de société et même personnel. Qu'à cela ne tienne, la cigarette porte atteinte à la santé, les mégots jetés n'importe où, pollue l'environnement, sans oublier les non-fumeurs qui, sans fumer, sont intoxiqués par le tabac.
Et c'est ce qui met fin donc à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toutes et à tous. Tout de suite, la version Bambara avec Idrissa Sakho.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Plus de 2000 écoles privées contre une centaine d'écoles publiques, c'est la présentation de la situation des établissements secondaires au Mali. Ces chiffres sont soutenus par la Direction nationale de l'enseignement secondaire. Pendant que ces écoles poussent comme des champignons, le ministère de l'Éducation dénonce une violation des textes du système éducatif. Établissements privés, quand les procédures de création sont violées, c'est le sujet du magazine Gouvernance et Citoyenneté réalisé présentement par Lale Tangara.
Pour des parents rencontrés à Sikasso, Bankas et Direi, l'État doit mieux s'impliquer dans la gestion des écoles privées. Certains parents d'élèves conscients des difficultés proposent comme alternative la révalorisation des écoles publiques.
Les écoles privées poussent comme des champignons. Trop d'élèves dans les écoles privées, les subventions sont élevées et l'État aura toujours du mal à respecter ses engagements.
À mon avis, toutes les écoles privées ne répondent pas les normes. Parce qu'il y a des écoles privées qui sont comme des logements.
Aux parents aussi, les élèves ne sont pas obligés d'être au privé. S'ils cessent, nous demandons à tous les parents de mettre un transfert pour les publics. Je crois que ça serait une alternative.
Seydou Koulibaly, promoteur d'une école privée à Bamako, dut comprendre l'inquiétude des parents. Mais il annonce que les écoles privées ne peuvent pas non plus fonctionner sans un financement soutenu, car l'État leur doit chaque année, dit-il.
Les parents ont raison, mais le problème se situe seulement au niveau du paiement des frais scolaires et demi-bourses. Donc, les écoles ont travaillé pendant l'année scolaire précédente, 2022-2023, et il n'y a pas eu de paiement. C'est avec les frais scolaires et demi-bourses que les écoles payent et les loyers des bâtiments qu'elles occupent, les professeurs. Et rembourse également l'accompagnement des banques.
Selon le directeur national de l'enseignement secondaire du Mali, il y a une floraison des écoles privées ces dernières années. Mais Enzan Koulibaly admet tout de même qu'ils sont en manque d'établissements publics pour répondre à la forte demande. Raison pour laquelle des élèves sont orientés vers les écoles privées.
Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'écoles privées. Il y en a 2358, de tout ordre confondu, cette année. Contre, par exemple, chez moi, 82 lycées publics. Certains ressortent des élèves de l'État. Pas tous les établissements. Nous ne sommes pas obligés d'envoyer nos enfants, c'est-à-dire nous l'État, dans ces écoles privées, mais seulement comme le nombre d'enfants dépasse nos possibilités de gestion, manque de classes.
Les responsables de la Fédération des parents d'élèves et étudiants du Mali déplorent cette situation. Daouda Sako, secrétaire général adjoint de l'association, pense qu'il est temps que les autorités misent sur la création des établissements publics afin d'alléger la situation.
La gestion des écoles privées, à mon sens, est catastrophique. Le nouveau secrétaire, c'est là où il y a le gros problème. À chaque session du DF, les écoles privées reconnues par l'État reçoivent plus de 40-50% des élèves admis au DF. N'importe qui n'est pas habilité à ouvrir une école privée. Donc comment tu veux comprendre que de l'indépendance à maintenant, on a peut-être une petite centaine d'écoles de lycée classique, de lycée d'enseignement général technique professionnel. Et à moins de 20 ans, on a près de 3000 écoles privées reconnues par l'État et de l'indépendance à maintenant. On n'a même pas 150 lycées de l'État.
Le directeur national de l'enseignement secondaire du Mali répond à cette problématique. Enzan Koulibaly annonce les mesures de riposte prises par le gouvernement.
On a commencé à prendre le taureau par le corps en construisant les écoles. Il y a un projet immédiatement, ça a même commencé. Par exemple, la construction de Kaïdi a commencé. Il y a 11 établissements publics d'enseignement secondaire général qui seront construits et 2 lycées d'excellence. Bon, je crois que cela va diminuer un peu la pression des enfants qu'on envoie au niveau des établissements privés. L'argent qu'on paye aux promoteurs d'écoles privées pèsent de plus en plus lourd dans le budget d'État.
À noter que chaque année, l'État subventionne ces écoles privées à hauteur des milliards pour qu'elles puissent prendre en charge ses élèves.